Et vous écoutez France Culture. Une ville schizophrène, mais pas vraiment inhospitalière. Robert Jackson Bennett, et pas d'erreur, c'est une légende. Mauvais genre à Nantes ce soir à l'occasion de l'édition 2018 des Utopiales, festival international de science-fiction, dont le thème majeur est cette année le corps sous tous ses aspects physiques, psychiques, virtuels et sociaux, un thème central d'American Elsewhere de notre invité Robert Jackson Bennett, première parution d'Albin Michel Imaginaire, dont le directeur Gilles Dumay et la collaboratrice Eva Zinanian sont également les invités de Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre, l'émission est ce soir à Nantes et je salue le public du Festival Utopial. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être là, nombreux, pour écouter nos invités et suivre cette émission. Ça fait quand même pas mal d'années, depuis le tout premier je crois, que cette émission est présente au festival. Je me souviens de la première parution, l'arrivée du festival depuis Poitiers à Nantes. C'était il y a quand même combien d'années, Jeanne Adebatz?
Mon Dieu, je ne sais pas ça. C'était bien avant moi.
C'était bien avant vous, oui, bien sûr.
C'était sous le règne, je crois, de Patrick Liger, il me semble.
Non, c'était encore avant, c'était Bruno Della Chiesa, absolument, qui nous arrivait de Poitiers. Mais on ne va pas faire l'histoire du festival, on va s'intéresser avant tout à son présent. Mon invité ce soir, donc, c'est notamment Robert Jackson Bennett, bonsoir, on l'applaudit.
Merci.
Il a déjà publié, on le découvre grâce à American Elsewhere, donc le premier volume publié dans la collection, dans l'espace éditorial, Albin Michel Imaginaire, dirigé par Gilles Dumay, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va voir un petit peu, c'est la nouvelle étape de votre parcours d'éditeur, Gilles Dumay, Albin Michel Imaginaire.
Après, oui, semblerait.
Un parcours déjà extrêmement fourni et pour vous soutenir et collaborer avec vous, Eva Zinanian qui est là, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, donc collaboratrice de Gilles. Et j'ai à ma droite Jeanne Adebatz, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice artistique et patronne du festival donc Utopial depuis combien d'années maintenant?
C'est ma troisième année.
C'est ta troisième année. Ben, c'est une année en plus tout à fait remarquable. On va détailler avec vous en ouverture d'émission le programme et la grande thématique de ce festival.
Failure. Possible cause. Damage to power relay. Consult diagnostic report in repair bay, level 3, for detailed analysis. Dangerous biocontaminant detected. Do not enter without protective suit. Safety interlocks disabled.
De la playlist signée comme tous les samedis dans Mauvais genre par Laurent Polleret, notre réalisateur. Je signale que les propos de Robert Jackson Bennett seront traduits par Odile Lacoste qui est avec nous sur le plateau. Alors Jeanne Adebatz, pour cette édition 2018, un thème central qui est le corps. Mais comme je l'ai dit en ouverture, le corps sous tous ses aspects, dans tous ses états. C'est vrai que le corps, depuis le golem jusqu'à aujourd'hui, ne cesse d'occuper le terrain, si j'ose dire, en science-fiction et en fantastique.
On peut facilement dire que le corps occupe toutes les branches du savoir et de l'art humain. Il n'y a pas un endroit, même en science, fût-il plus l'astrophysique, qui ne s'occupe pas d'une façon ou d'une autre d'un corps quelconque. Cette édition des Utopiales, nous avons décidé de diviser le thème en quatre axes différents. Le corps physique, que ce soit celui de l'être humain et celui des astres qui l'entourent, celui de l'astre sur lequel il se place lui-même, les étoiles, tous les corps astraux, puis le corps social, qui est l'autre grand axe, parce que fondamentalement, il y a quand même deux grands pôles qui ont occupé notre programmation, qui est le corps physique et le corps social, sur lesquels il y a tant à dire, et d'une certaine façon, deux autres sous-thèmes, le corps virtuel et le corps psychique, c'est-à-dire la façon dont notre esprit envisage notre corps, la proprioception de notre corps lui-même.
Donc c'est la notion de corps au sens le plus large du mot, à la fois comme entité, comme organisme, comme anatomie, comme réseau.
Voilà, le corps dans tous ses aspects, tous ses états et de sa force, le fait qu'il est peut-être lui-même l'être.
Alors le corps fait débat, et quelles sont donc les grandes questions qui vont être débattues, Jeanne de Batz, donc cette année aux Utopiales autour du corps?
Alors cette année en particulier, nous avons choisi de faire d'apporter une nouveauté au festival, un grand cycle de conférences qui a commencé mercredi et qui termine aujourd'hui, avec quel avenir pour le transhumanisme, qui est la clé, on va dire la question centrale actuelle autour du corps humain dans le monde, c'est-à-dire le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont l'être humain agit par la technologie sur son propre corps. Le transhumanisme, ça commence à vos lunettes, à votre prothèse de hanche, à vos lentilles, à votre appareil auditif, à vos boucles d'oreilles, aux tatouages.
À mon casque, par exemple.
À votre casque. Mais ça peut finir à l'immortalité, peut-être, un jour. La vraie question est de savoir qui sera immortel.
Et comment, surtout.
Et comment, et dans quel état. Mais c'est une question passionnante, donc nous avons décidé effectivement de la décliner sous 5 aspects, et vous verrez la dernière ce dimanche.
Alors justement, évoquons les rencontres de ce dimanche, donc demain à 11h à la salle Hyperion, c'est les 200 ans de Frankenstein, parce que c'est quand même, faut rendre hommage au grand ancêtre, c'est quand même elle et lui, la créature et Mary Shelley, qui ont quand même beaucoup fait pour le corps.
On ne pouvait pas ignorer la fondatrice du genre, c'était impossible, surtout pas le jour, enfin, anniversaire de son bicentenaire. Or, Frankenstein est effectivement au cœur de notre programmation. Il n'y a pas beaucoup de tables rondes où nous n'en parlons pas. Je vais certainement aborder le sujet dans ma... J'ai abordé le sujet dans ma table ronde avec John Scalzi, puisque dans John Scalzi, on retrouve ce thème traversant, notamment dans son roman magnifique, Le Ghost Brigade, Les Brigades Fantômes, que je vous conseille à tous de lire. Mais par ailleurs, il y a d'autres auteurs qui se sont emparés évidemment du sujet, parce que Frankenstein, c'est le thème de science-fiction par excellence. Et par exemple, je pense, dans cette table ronde de 11h en salle Hyperion, vous aurez Joanne Elliott qui a écrit son propre Frankenstein.
En lien avec un autre anniversaire.
En lien avec un autre anniversaire.
Voilà, qui se fêtera le 11 novembre. Il y a 13h30, Le Fléau, dont Stephen King. Alors là, effectivement, là c'est...
Bien, peut-être que l'une des...
Épidémie, pandémie et autres ravages.
Peut-être que l'une des solutions à la surpopulation qui menace notre planète, ce sera ce fléau qui ravagera éventuellement la planète, si nous sommes assez stupides pour ne pas réussir à l'endiguer. Et en référence à ce merveilleux roman, Le Fléau de Stephen King, nos auteurs vont en discuter passionnément, je pense.
Et deux autres débats signalés, à 14h là où nous sommes, sur la scène Chaillol, et à l'autre, à Salle Hyperion, à 14h. En même temps, il faudra choisir, vous aurez le choix, abondance de bien, ne nuit pas, entre le transhumanisme 5, c'est-à-dire le cinquième débat consacré au sujet, et trouble dans le genre. On peut dire quelques mots de trouble dans le genre?
Alors, trouble dans le genre, à la base, c'est le titre d'un essai de Donna Haraway, qui traite de la façon dont on envisage socialement le corps des êtres humains. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que tel corps est un corps féminin ou tel corps un corps masculin? Comment est-ce qu'on se définit dans sa féminité ou dans sa masculinité ou dans autre chose par rapport aux injonctions sociales? C'est la base des gender studies. Et pour en discuter, nous serons en compagnie de Sabrina Calvo et de Baptiste Beaulieu, dont ce type de question est au cœur de leurs ouvrages.
Je vais me tourner vers Robert Jackson Bennett. Le corps, on va le voir avec American Elsewhere, est au cœur même de votre démarche et de votre réflexion, en tout cas dans ce roman. Qu'est-ce qu'un corps? Comment fonctionne-t-il? Qu'est-ce qu'il fait fonctionner? Toute une fantasmagorie liée au corps, à l'anatomie humaine.
I think what works about the body
is that it's really limited. C'est un petit peu limité. Le corps est limité. Il y a une scène, par exemple, où l'héroïne se rappelle une histoire sur le moment où elle était à l'école, un jour, et à un moment donné, elle ne pouvait plus fonctionner aussi bien qu'avant. Et ça lui a pris un certain temps de comprendre pourquoi. Et que c'était les dernières années de son adolescence. Donc on peut voir le corps d'une certaine façon, on peut voir le monde d'une certaine façon avec son corps.
Et c'est un enfant
qui est différent des autres protagonistes. Elle sait que son expérience doit être limitée, restreinte. Quelque chose peut se passer. And I think, à l'école en particulier pour
I think about science, and I think
et
about
quand je pense à la science, je pense à la façon dont la science est basée sur la façon dont on voit le monde, comment on expérience le monde. Et ça nous donne, les expériences qu'on a pu avoir avec le monde ont façonné notre science. La science se bat pour être objectif.
Mais because we are trapped inside
comme
of ourselves,
nous sommes piégés dans notre propre nous-mêmes, dans notre propre corps, il faut être conscient de cela. Tout ce que l'on voit est changé en raison de parce que nous sommes ce que nous sommes.
Book,
et dans le livre, elle trouve une façon d'expérimenter un peu plus, de voir qu'est-ce qui se passe derrière le rideau.
Kind of ultra-sensory.
C'est un autre elle-même. Elle voit ce qui se passe, ce qui est caché. Et le problème des scientifiques, c'est de partager leur expérience et d'ajouter d'autres phénomènes à ce qu'ils expérimentent du temps en particulier.
Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau des corps, le rideau de chair des corps? Mais on va le voir dans American Elsewhere de notre invité Robert Jackson Bennett. Merci, Jeanna de Batz.
Au revoir.
Et je signale également, là, c'est pour parler de Frankenstein, la rétrospective. Il y a tout un volet rétro au volet cinéma du Festival Utopial et je recommande tout particulièrement puisque vous pourrez y revoir Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, l'homme qui rétrécit, Frankenstein Junior et autres merveilles. Donc c'est à Nantes jusqu'à dimanche. Merci Jeanna de Batz. Bon festival. Culture ce soir à Nantes au Festival Utopial, festival de science-fiction, l'événement essentiel de la scène science-fictive française en ce moment. C'est le démarrage d'Albin Michel Imaginaire. Vous allez être le directeur Gilles Dumay, bonsoir.
Bonsoir.
Eva avec Eva Sinanian, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Gilles Dumay, on vous connaît très bien, vous êtes quand même un des personnages les plus actifs et les plus emblématiques du milieu de la science-fiction française. Proche de la revue Bifrost, vous êtes occupé avant, on vous avait nommé à Présence du Futur, que vous avez transformé en Lune d'encre. Et pendant déjà combien d'années vous êtes occupé de
Je suis resté 19 ans chez De Noël.
Mais ce qui fait quand même un parcours extrêmement important, avec des découvertes essentielles, et récemment Romain Lucaso.
Oui, la Siom, très très bon. Oui.
Voilà, récemment des découvertes encore. Et là, brusquement, vous passez chez Albin Michel pour créer Imaginaire. Alors, Imaginaire, il ne faut pas confondre, j'ai lu l'entretien que vous avez accordé à mon collègue Prolongeau à Télérama, ça n'est pas une collection. Puisqu'Albin Michel a cette particularité de confier, je dirais, non pas des collections, mais des départements éditoriaux. Alors, il y a le département éditorial spiritualité qui est confié depuis des années à Jean Moutapa, Sciences humaines, Hélène Monsacré, et vous donc, c'est Imaginaire. Alors, l'imaginaire n'est pas une nouveauté, loin de là, chez Albin Michel. Il y avait déjà, bien sûr, Stephen King, où il y a eu Dan Simmons. Alors, en quoi, quelle est un peu la feuille de route, Gilles Dumay et vous, Eva Sinanian, d'Albin Michel Imaginaire?
Alors, Albin Michel Imaginaire, c'est la volonté d'aller au-delà de ce qu'Albin Michel sait déjà faire très bien, c'est l'imaginaire grand public, avec Bernard Werber et Maxime Chattam, par exemple, que vous avez oublié.
Voilà. Des auteurs étrangers, puisque vous éditez ouais, des auteurs étrangers.
Mais il y aura des auteurs français aussi en Albin Michel Imaginaire. Ah, donc c'est première aussi la volonté d'avoir un espace où on accueille un imaginaire décomplexé, un imaginaire extrêmement assumé par des auteurs qui veulent faire de l'imaginaire, pas par des auteurs qui, entre guillemets, font de la littérature et mettent des robots ou des intelligences artificielles dedans. Donc je cherche avant tout des auteurs qui portent en eux cette idée que l'imaginaire est une culture qui a des choses à dire, qui est une culture progressiste. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Je cherche des auteurs qui ont foi envers le futur, qui croient au futur, qui croient qu'un futur est possible, qui vont se poser des questions sur l'écologie, etc. Et donc, c'est un département parce que, pour moi, l'idée d'une collection, c'est quelque chose avec une ligne assez réduite. Et l'idée d'un département, c'est justement quelque chose où on peut mettre des collections. On peut avoir une collection de romans, mais aussi une collection d'essais, une collection de novélisations de jeux vidéo, une collection d'un univers, une licence, etc. Donc oui, c'est un immense espace de liberté qui souffre dans une maison Albin Michel qui a montré pendant des années qu'elle était capable de faire des choses très différentes et qu'elle était très ouverte, et notamment très ouverte à l'imaginaire, contrairement à d'autres maisons parisiennes de littérature que je ne citerai pas, bien entendu.
Eva Sinanian, ouvrir aujourd'hui une collection, un département imaginaire, ça demande non seulement de prêter attention à ce qui fait d'habitude évidemment un livre, c'est-à-dire un auteur, un traducteur, toute la logistique qui encadre la création d'un livre et qu'on trouve en librairie, mais ça, évidemment, ça nécessite aujourd'hui bien autre chose.
Bah oui, ça nécessite.
Que l'imaginaire est partout et l'imaginaire s'infiltre partout, si j'ose dire.
Bah, ça nécessite notamment de prendre en compte la communauté des lecteurs et d'aller leur offrir différents moyens de connaître nos livres. Notamment, le travail qu'on a beaucoup fait, c'est autour des réseaux sociaux, et plus particulièrement de Facebook, de vidéos, et de tisser des liens avec des lecteurs déjà identifiés, auxquels on a pu envoyer les bouquins, recevoir des avis, et on les met en valeur aussi.
Donc vous prenez en compte une communauté comme celle qui est rassemblée aujourd'hui aux Utopias, qui existe déjà et que vous visez d'abord.
Exactement. Nous, le but, c'est de parler aux gens qui, grosso modo, sont comme nous, qui sont des férus d'imaginaire.
Alors, c'est la cible, entre guillemets, Gilles Dumay, les férus d'imaginaire. Parce que vous venez de nous dire, effectivement, ça, on avait bien compris qu'Imaginaire Albin Michel ne serait pas le moment d'encanaillement. Les grandes maisons ont toujours un moment d'encanaillement avec le roman policier, l'érotisme ou la science-fiction ou le fantastique. Ce serait beaucoup plus que ça. Ça correspond à un moment de maturité, d'implantation, de légitimation et de reconnaissance de l'imaginaire.
On vit une période qui est assez passionnante. Je trouve que l'imaginaire est devenu la culture dominante. En tout cas, c'est le cas quand on regarde Netflix ou quand on regarde le cinéma ou quand on regarde les jeux vidéo ou les jeux de rôle. Et donc dans cette période-là où les super-héros, la science-fiction, la licence Star Wars, la licence Marvel, toutes ces choses-là pullulent, on voit qu'il y a une culture. Alors on peut appeler ça la culture geek, on peut appeler ça par plein d'adjectifs. Moi, je suis un lecteur, mais je suis pas qu'un lecteur. Je joue, je regarde des séries, je regarde des films. Et je considère donc qu'il y a toute une communauté de gens qui sont comme moi, qui sont aussi intéressés par les livres, les bandes dessinées, les jeux vidéo, etc. etc. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je choisis des livres pour Albin Michel Imaginaire, je choisis des livres pour eux, parce que quelque part, je choisis des livres pour moi. Et je m'adresse en priorité à eux. Et dire ça, c'est déjà une espèce d'acte politique. Ça veut dire ces livres-là, ils sont pour les gens qui assument d'aimer ça, qui ont pas peur d'avoir un t-shirt Cthulhu ou qui ont pas peur de dire qu'ils ont joué à Skyrim la veille et qu'ils ont adoré ça, etc., etc. Et ça se positionne en contre quelque chose. Les gens qui disent oui, mais l'imaginaire, c'est de la littérature, c'est bien quand ça se noie dans la littérature. Ben non, je crois qu'il faut assumer qu'on aime ça. Il faut assumer qu'on est différent et que justement on n'a pas envie d'être avalé par la littérature, mais que on a envie, au contraire, de contaminer la littérature. Et on a bien réussi à contaminer la littérature. Il n'y a qu'à voir des auteurs comme Houellebecq ou comme Dantec, qui sont des auteurs complètement contaminés par l'imaginaire. Mais moi, personnellement, en tant qu'éditeur, je veux être à la source de la chose. Je veux être dans l'imaginaire par des auteurs qui revendiquent de faire l'imaginaire.
Poser la question à Robert Jackson Bennett. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que la littérature et la culture, avec un grand K, a été contaminée par l'imaginaire ?
Contaminated is a pretty strong word.
Contaminé, c'est peut-être un mot un peu fort, mais bon, c'est bien.
I think that what's happening right now is
we are living through a set of problems. C'est que nous faisons face à des problèmes mondiaux, des problèmes qu'on n'avait jamais eu auparavant. Et il faut en être conscient. Il va falloir donc imaginer des choses qui n'ont jamais existé jusqu'à présent. Et on va devoir s'appuyer sur notre imagination, je pense. Jusqu'à un certain point, c'est effectivement contaminé. Et je pense qu'on parle ici d'un besoin qui est là, qui existe chez les lecteurs, sur le marché, dans le monde. Nous allons devoir créer de nouvelles choses. On va devoir fabriquer une nouvelle façon de vivre pour continuer à exister dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est très profond. C'est une réponse très sérieuse aux super-héros, finalement. C'est un peu ce dont on parle quand il s'agit de super-héros. Je crois qu'on essaye de créer une autre réalité où on peut développer de nouvelles institutions. Et quand il s'agit d'essayer de contaminer le lecteur avec l'imagination, je crois qu'on doit plonger là-dedans. On doit essayer de contaminer les autres autant que possible. On doit essayer de faire quelque chose. De neuf. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui.
Et voici Nanyan, réagir au propos de...
En fait, principalement, je suis d'accord. Peut-être plus qu'une contamination, je penserais à une transmission aussi. Moi, je vois aussi les choses, peut-être par mon passé, parce que j'ai parfois bossé en librairie ou autre, comme le fait de vouloir transmettre un imaginaire. De vouloir transmettre aussi, comme disait Gilles, un certain espoir envers le futur. On en parlait récemment, ce qui pour moi va être intéressant dans le livre qu'on a, c'est que les personnages ont pour certains une certaine bienveillance, même dans un univers complètement violent. Vont vouloir changer, vouloir évoluer et vouloir changer le monde autour d'eux. Et c'est aussi quelque chose d'important pour moi dans l'imaginaire.
Gilles Dumay.
J'ai beaucoup discuté de science-fiction avec des auteurs comme Ian MacDonald ou Robert Charles Wilson. Et ce qui ressort de la philosophie de ces auteurs-là, c'est de refuser d'écrire des futurs où tout est joué d'avance, tout est foutu, où on ne s'en sortira pas. Et donc, il faut toujours essayer de porter l'espoir, essayer de trouver des solutions, essayer de trouver, même si c'est compliqué, même si les défis écologiques qui se dressent devant nous semblent insurmontables, c'est la force de la science-fiction, c'est la force de l'imaginaire. Il faut trouver des solutions, trouver des moyens d'avancer et continuer et ne pas baisser les bras.
Donc l'imaginaire est non plus une échappatoire, mais une matrice de réflexion. C'est un changement radical de statut.
Ça peut être les deux, c'est-à-dire je pense qu'il ne faut pas, opposer la littérature divertissement à la littérature un peu plus philosophique. On a besoin des deux, on a besoin de temps en temps de prendre un grand bol d'air et de souffler. Mais après, c'est vrai qu'une science-fiction, en tout cas celle qui m'intéresse le plus, celle de Greg Egan ou d'auteurs comme ça qui sont très spéculatifs, c'est une science-fiction qui va analyser la place de l'homme dans l'univers ou la place, le lien entre l'environnement, qu'il soit naturel ou virtuel, et essayer de montrer quel va être le futur pour parler de notre présent. Et la science-fiction, tout le monde le sait, hein, c'est la littérature qui parle le mieux du présent. Il n'y en a pas de meilleur.
Alors pour incarner cette vision à la fois de l'activité éditoriale et culturelle et de la science-fiction, Gilles Dumay, vous avez choisi un certain nombre de titres, parce que pour l'instant, Albin Michel Imaginaire sont des livres, ça pourrait être plus tard pas, des bandes dessinées, je ne veux pas parler de films ni de jeux vidéo, mais enfin pour bande dessinée, pourquoi pas, et des essais. Donc vous nous annoncez à la fois des auteurs français, francophones en tout cas, on est ravis, non anglophones, et puis des essais. Là aussi, on sera extrêmement attentifs, puisque l'essai se développe de plus en plus, d'ailleurs, dans les collections de science-fiction. Alors pour l'instant, ce sont des fictions. On va voir celles que vous avez choisies. On garde évidemment pour la bonne bouche, c'est-à-dire la deuxième demi-heure de Mauvais Genre, le roman de Robert Jackson Bennett. On va parler de celui de Neil Stephenson, Anathème, en deux tomes.
C'est un gros morceau. C'est... Quand on aime la science-fiction, il y a toujours des livres qui ont une importance supérieure, comme Hyperion ou Dune, de Frank Herbert. Je trouve que Anathème fait partie des livres qui rentrent dans ce trio-là. C'est un livre très important, c'est un livre très ambitieux. J'ai lu ça et là sur internet que c'était un livre très exigeant. Je partage pas tout à fait cet avis là. Je pense que c'est un livre qui mérite un petit
c'est
effort.
C'est pas un mot, c'est pas un défaut d'être exigeant.
Non, mais
ça veut pas forcément dire compliqué ou inextricable.
C'est une espèce de labyrinthe, mais c'est un livre très drôle aussi. Ça raconte l'histoire d'un scientifique qui vit dans une communauté de scientifiques qui est fermée dans une planète différente de la nôtre qui s'appelle Arbre. Cette planète-là a été ravagée par deux, trois apocalypses.
Oui,
on a eu plusieurs, oui. Et ils appellent ça les sacs. Et donc, après la dernière, ils se sont protégés. Ils sont enfermés dans une espèce de forteresse. Et ils s'ouvrent au monde une fois tous les ans, une fois tous les 10 ans, une fois tous les 100 ans, une fois tous les 1000 ans, selon leur statut dans la communauté. Et le narrateur, Fray Erasmus, est un des scénariens, donc lui, il a le droit de sortir de la consente une fois tous les 10 ans. Et cette ouverture au monde va coïncider avec un événement astronomique difficile à comprendre au départ. Et c'est une quête, c'est 7000 ans de philosophie humaine revisitée par Neil Stephenson, avec beaucoup d'irruption, beaucoup d'humour. Les gens qui aiment Le Nom de la Rose vont retrouver des choses qu'on trouve dans Le Nom de la Rose sur le travail, sur les mots, sur le langage. Personnellement, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est vraiment un des livres les plus importants de l'histoire de la science-fiction.
Ni plus ni moins. On peut dire également présenter les autres titres disponibles, Elva Sinanian, donc Peter Flannery, Mage de bataille.
Alors évidemment.
Là, c'est autre chose.
Je suis embêtée, c'est le seul que j'ai pas lu.
Ah, tac. Voilà dénoncé. Cameron Hurley, les étoiles sont légion, la Vénus.
Au détour d'une discussion avec Gilles qui m'avait dit « Tu verras, c'est crade et c'est violent », ce qui n'est pas ma cam habituellement. Je l'ai quand même pris en me disant « On verra ». Je l'ai adoré, je l'ai dévoré et je suis revenue en disant « Franchement, pour quiconque a peut-être déjà dans sa vie eu des règles, c'est pas du tout crade ».
Ah bon.
Voilà.
C'est pas tout à fait ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est le livre qu'il faut lire qu'on a envie de s'arracher l'utérus à bonne.
C'est vrai.
Très bien. Madame, messieurs, vous êtes avertis. Ça ferait un très beau bandeau pour les librairies. Ça,
on y a pensé, mais.
Voilà, bon. Oui. Alors, peut-être avez-vous lu Mage de bataille, Gilles Dumais?
Oui, j'ai même lu deux fois, en fait. Mage de bataille, c'est ce qu'on appelle de la big commercial fantasy. Donc, c'est vraiment la fantasy. La plus épique, la plus pure, c'est une histoire archétypale, faut pas avoir peur du mot. Un jeune homme qui a des pouvoirs, qui porte sur ses épaules le poids de son père qui a été à l'origine d'un massacre. Et ce jeune homme est malade, il a une espèce de phtisie, il a une espèce de problème au poumon. Et c'est un roman où on suit un personnage qui monte en puissance. C'est un roman élégiaque. Et j'ai trouvé dans ce livre, alors je suis pas un gros lecteur de fantasy, j'ai trouvé quelque chose qui m'a ramené au livre de Michael Moorcock des années 70, au Elric, le champion éternel, tout ça. Ce sentiment de personnages incroyables qui sont bigger than life, qui sont complètement démesurés dans leur pouvoir, ou dans leur folie, ou dans leur courage, ou dans leur foi. Et j'aime ce type de livre où, globalement, il y a une espèce de promesse assez simple. Vous allez avoir de la magie et des batailles, mages de bataille. Et cette promesse est tenue sur 1000 pages avec un souffle incroyable. C'est peut-être le roman où il y a le moins de réflexion dans la sélection au début, mais c'est aussi peut-être le roman où il y a le plus de plaisir de l'aventure, de la grande aventure, comme on l'a découvert au début de la fantasy dans les années 70, où on avait globalement Conan et le Seigneur des Anneaux. On voyait pas trop ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Les gens les plus connus, les gens qui avaient le plus de culture connaissaient Fritz Leiber, Lankmar, etc. Et là, d'un seul coup, on a vu arriver tous ces héros comme Elric et d'autres. C'est un choix assez nostalgique, j'ai pas peur de le dire.
Donc, Alba Michel Imaginaire, les titres d'ouverture, si j'ose dire. Neil Stephenson Anathème, c'est en deux tomes. Peter Flannery, Match de bataille, c'est en deux tomes. Les étoiles sont légion, c'est en un tome. Et également en un tome, ce qui va faire la seconde partie de notre émission en compagnie de son auteur, Robert Jackson Bennett, American Elsewhere.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Qui est heureux d'être aux Utopias, à Nantes, pour l'édition 2018 et de recevoir donc Robert Jackson Bennett et son éditrice, éditeur, Gilles Dumay et Eva Sinanian. Alors, c'est toujours important, un premier titre, Gilles Dumay, et ça donne une dominante, une tonique, une couleur. Alors, pourquoi cet American Elsewhere ? 780 pages, j'avoue que c'est quand même un démarrage sur la roue arrière, c'est assez extraordinaire.
Ben merci. C'est un livre que j'ai lu quand il est sorti en anglais, donc il y a 5 ans maintenant, je pense, et que je voulais absolument, absolument publier, et qui faisait à peu près peur à tout le monde, notamment à cause de sa taille. Donc c'est une traduction très chère, c'est compliqué, c'est risqué, etc., etc. Et moi, je suis un lecteur de Stephen King, je confesse, et c'est probablement mon écrivain préféré.
Ça se porte bien chez Alba Michel.
Oui, ça, oui, c'est assez raccord. Oui. Et j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec Le Fléau, j'ai grandi avec Dead Zone, j'ai grandi avec ces livres-là, et j'ai l'impression, alors elle est probablement fausse, hein, mais que Stephen King a dévoré toute la concurrence en France. Et alors que pendant, il y a eu après lui deux générations d'auteurs qui ont écrit des grands romans comme ça, des grands romans d'horreur ou des grands romans fantastiques, entre guillemets, à la Stephen King. Mmh. Et justement, en arrivant chez Albin Michel, je me suis dit, il m'en faut un. Il faut que je montre à la maison qu'il y a les enfants de Stephen King. Pour moi, Robert Jackson Bennett sur ce livre-là est vraiment dans cette filiation-là, même si je pense qu'il sera pas d'accord et il dira qu'il fait son truc, etc.
On va lui demander, assurez-vous.
Mais après ce livre-là, je le trouve magique et c'est un livre. Enfin, je connais très peu de lecteurs qui l'ont pris, qui l'ont pas fini. Et qui l'ont pas lu quasiment d'une traite. Et,
c'est très addictif.
Oui, c'est très addictif. Et je trouve que c'est un livre qui tient sur deux, trois choses. Alors, il tient sur quelque chose qui pour nous, Européens, est probablement plus fascinant que pour les Américains, qui est un petit peu, entre guillemets, le syndrome Twin Peaks, qui est le syndrome de cette ville américaine, un petit peu encore bloquée dans les 50s, encore un peu bloquée dans quelque chose d'un American way of life presque parfait, qui a une belle apparence, et puis derrière il y a des secrets, il y a des trucs qui sont moches, il y a des trucs qui sont pas beaux, il y a des trucs qui sont inquiétants, etc., etc. J'adore ça. Il y a cet élément là que j'aime beaucoup. Il y a le personnage principal, Mona, qui est un personnage, je suis tombé amoureux d'elle, mais tout de suite, la première scène où elle va à l'enterrement de son père, je trouve qu'en quelques phrases, elle est décrite, la façon dont elle analyse le regard masculin sur son corps, la façon dont elle parle de son père, dont elle parle de sa mère, dont elle parle de la fameuse voiture qu'elle va récupérer, la Dodge Charger rouge, etc. Mmh. Je trouve que, voilà, ça c'est le talent des plus grands écrivains pour moi. C'est en quelques lignes, vous avez un personnage qui naît devant vous, qui monte en puissance et qui existe et qui est incarné. Et alors peut-être le troisième élément qui m'a séduit, c'est un élément lié à mon passé de lecteur, à la nostalgie de nouveau, c'est le côté lovecraftien. C'est le côté entité, chose indicible, chose cachée, horrible.
Pas trop en dire, puisqu'elles sont indicibles. Voilà. Mais c'est vrai que toutes ces dimensions sont présentes. Alors on va se tourner vers l'auteur, Robert Jackson Bennett. Vous avez Gilles Dumais a dit que vous étiez, selon lui, un des fils de Stephen King. Alors est-ce que c'est une filiation que vous revendiquez? Est-ce qu'elle vous enthousiasme ou est-ce qu'elle vous gêne? Comment l'acceptez-vous? Et l'acceptez-vous d'abord?
So I think that what Stephen King was really great at was
ce que Stephen King est bon, c'est pourquoi il est bon, c'est qu'est-ce qui se passe si ce genre de scénario, si vous prenez une vie normale, what if, qu'est-ce qui se passe si? Et je crois que Stephen King est très bon là-dedans. C'est une façon très particulière de regarder le monde. On prend quelque chose de normal et puis on le tord très légèrement. Et Stephen King, une nuit, il y a des années, je devais sortir la poubelle. Bon. Et j'ai traversé les jardins avec juste un spot de lumière et en traversant la pelouse, je me suis arrêté et je me suis dit, et qu'est-ce qui se passe si je lève les yeux et je vois quelqu'un qui me regarde? Qu'est-ce que je ressentirais?
Alors je me suis dit, bon,
disons que ça arrive à quelqu'un dans son jardin, il vit sa vie et il voit quelqu'un dans la nuit qui le regarde. Qu'est-ce qui se passe si cette personne n'est pas surprise de voir cet étranger? Accepte l'étranger, accepte qu'on le regarde. Voilà, il sait ce qui va se passer, il est préparé à ce qui va se passer et il faut faire attention à ce genre de choses. Voilà. Ça avait l'air d'être pour moi une chose très intéressante sur laquelle je pouvais écrire. Qui est cet homme? Pourquoi est-ce qu'il accepte que la personne dans le noir le regarde? Pourquoi est-ce qu'il est dans le jardin, dans sa propriété? Il l'accepte. Et ça, c'est un peu une façon de penser à la Stephen King. Et un de mes amis, un jour, il a eu cette idée. Je sors la poubelle, je traverse le jardin, et toi, ça va? Qu'est-ce qui se passerait si tu fais ça et quelqu'un te regarde? C'est une idée très bizarre, n'est-ce pas? Il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent à ce moment-là. Et donc, j'ai essayé de faire rentrer ça dans un livre. Donc, c'est vrai que c'est une façon de travailler à la Stephen King, ou de voyager à la Stephen King.
Alors, on a cité Stephen King, mais pour les autres ouvrages que vous avez publiés, Robert Jackson Bennett, notamment la série Divine Cities, et Mr. Chivers ou The Company Man, les autres ouvrages dont vous êtes l'auteur, vous avez eu une foule de prix, prix Edgar Poe, prix Dick, et surtout deux fois le prix Shirley Jackson. Quel est votre lien avec cette figure fascinante du fantastique américain, Shirley Jackson? Justement, là aussi, il y a des univers qui ont l'air comme ça anodins et qui se révèlent fracturés, hantés, miné de l'intérieur.
I'd say that my first four books definitely look at stages of America.
J'ai regardé un peu des scènes de l'Amérique. Le premier, c'est dans les années 30.
Like in the Dust Bowl. When the world seems to have died.
Quand le monde semble être mort. Le second livre,
c'est
la première
corporation.
L'autre, c'est un vaudeville. C'est quand l'Amérique a commencé à développer le chemin de fer, a commencé à coloniser. C'est des choses qui ont l'air très exotiques quand on est d'une grande ville et qu'on arrive dans l'Ohio ou dans le Kentucky. Et le quatrième, c'est les années 50 et les années 60 sur ces idées d'une Amérique. Une idée que l'Amérique avait du 20e siècle. Qu'est-ce que c'était que ce 20e siècle? Je crois que ce livre, c'est surtout sur l'Ouest. L'Ouest qui est devenu pendant le 20e siècle avec tellement différent avec la bombe atomique. Il y a tellement de possibilités qui se sont ouvertes. On peut se réinventer en permanence. C'est une belle idée de se réinventer, mais c'est simplement une idée, je crois. C'est finalement très difficile de se changer soi-même. Je ne pense pas que les gens changent beaucoup, fondamentalement. Ce livre examine ce combat ici, cette idée que l'on veut devenir quelque chose d'autre et s'éloigner de ce que l'on est pour se rendre compte en bout du compte que ce n'est pas vrai et cela nous hante. C'est une idée américaine que l'on peut changer, que l'on peut oublier le passé parce qu'on n'a pas beaucoup de passé, on n'a pas beaucoup d'histoire, c'est peut-être ça aussi.
Like in America, But it's this idea of being haunted by the past and by past choices, by this thing that we don't really seem to think that we have.
On ne pense pas qu'on avait, enfin, qu'on a oublié qu'on avait.
C'est bien sa veine d'avoir hérité d'une baraque dans une ville fantôme. Mais Wink ne peut être totalement abandonné. Les rues sont trop bien entretenues pour ça. Les néons du diner, bien qu'éteints, sont en bon état. La façade des cafés semble repeinte de frais. Et lorsque le soleil se couche, les lampadaires s'allument, baignant les rues d'un éclat blanc, phosphorescent. Pas un n'est cassé. Bien que déserte, la ville est curieusement belle. L'architecture de certains magasins et bâtiments tend vers le style Googie, qui contraste beaucoup avec l'esthétique habituelle du Nouveau-Mexique. On trouve parfois à côté d'une maison d'adobe, lisse et terreuse, une fenêtre métallique en forme de hublot, un toit anguleux et profilé ou un amalgame de verre, d'acier et de néon. Le diner et le café sont décorés d'enseignes en forme de paraboles peintes dans un bleu clair d'œuf de Pâques. La Charger détonne au milieu de ces rues. Ce qu'il faudra à Mona, c'est une Eldorado, avec des ailerons et des feux arrière de fusées spatiales. Où songe-t-elle en dépassant une maison d'adobe à murs arrondis et corbeaux de pin ? Peut-être une charrette. Une ville bizarrement schizophrène, mais pas inhospitalière.
Voilà un extrait d'American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, notre invité de ce soir aux Utopiales de Nantes, à Mauvais Genre sur France Culture. Alors ce roman, c'est vrai Gilles Dumay, que quand on a le malheur de l'ouvrir, on a le bonheur de ne pas le quitter, c'est-à-dire qu'on est avalé, on est digéré, on est broyé par le roman de Stephen King, de Robert Jackson Bennett, là vous m'avez soufflé, j'arrive plus à m'en sortir. Robert Jackson Bennett, c'est un roman, j'imagine, qui est un peu trois niveaux. Au départ, il y a effectivement Mona, ancien flic, qui a démissionné, qui est à traverser une période d'errance, de café en café dans le Nouveau-Mexique, qui perd son père. Sa mère s'est suicidée il y a 30 ans, autre drame traumatisant. Et puis, elle hérite de cette voiture et elle apprend que sa mère lui lègue une maison. Alors ça, c'est la première chose, puisque rien ne prédisposait sa mère à lui léguer une maison, et surtout dans cet endroit, qui est un endroit totalement hors du temps, presque, en tout cas qui n'est qu'un petit point sur la carte, qui s'appelle Wink, un village au Nouveau-Mexique où elle se rend. Et là, comme le disait Gilles Dumay, elle découvre un de ces villages dont on dit souvent que le temps s'est arrêté. Alors là, le temps a l'air de s'être arrêté dans les années 50. Donc il y a un premier niveau dans ce roman, c'est ça. C'est cette espèce de bizarrerie. Il se passe à ce point rien. Les gens sont à ce point paisibles. La tranquillité est à hurler. C'est d'une tranquillité à hurler. Que déjà, c'est un élément de bizarrerie. Et en plus de ça, il y a un milieu local de trafiquants, d'hommes de main, qui accomplissent des méfaits sans trop savoir ce que c'est. D'ailleurs, ils sont commandés par des commanditaires plutôt étranges, des commanditaires plutôt bizarres. Donc il y a déjà un climat assez curieux. On sent que, grosso modo, la vérité est ailleurs, pour citer la maxime d'une série fameuse. C'est un premier élément. Ensuite, il y a ce pourquoi, effectivement, la mère de Mona était là, Mona Alvarez. Elle était scientifique de haut niveau dans un centre perdu dans les montagnes, le centre Coburn, même nom que la star, James Coburn, où seront livrés à des visions, des expériences à limite autour de la mécanique quantique. Donc, deuxième niveau, ce village est visiblement adossé et en lien plus qu'étroit avec un centre d'expérimentation scientifique dont on apprend très vite qu'ils manipulent non pas des denrées dangereuses, des substances périlleuses, mais ni moins que l'ordre de l'espace-temps. C'est un peu l'ordre et la sécurité du monde qui commence à vibrer là. Et derrière tout cela, il y a un troisième niveau. Alors c'est le niveau lovecraftien sur lequel Gilles Dumay, il va signaler, on ne dira pas grand-chose. C'est qu'il y a encore derrière tout cela des entités. Il y a encore une réalité. Il y a encore autre chose. Donc c'est un peu les poupées russes, Robert Jackson Bennett. On ouvre, on soulève un couvercle, il y a déjà quelque chose dedans, un nouveau couvercle, il y a encore quelque chose. Et en définitive, à la différence des poupées russes, c'est pas de plus en plus petit, mais c'est de plus en plus grand et de plus en plus effrayant.
Yeah, I would say that one big inspiration for this book was Little Big.
Je dirais qu'une grande inspiration de ce livre, c'était Little Big.
The very It's an excellent book. It's about fairies functionally, but the fairies are very difficult to find the text.
Il est très difficile de trouver comment ça fonctionne. C'est une histoire.
Like experience the magical
qui,
from
qui
the
fait des expérimentations avec la magie.
Like, they don't ever show up and say exactly
ils ne se montrent jamais.
What
les magiciens
on.
Ne disent jamais ce qui se passe très exactement. Mais on est toujours à la
and
limite, au bord des
of
choses.
Little Big is the
et Little Big, donc,
that you go into fairyland, the
c'est que
gets.
Elle,
so
plus vous avancez dans le livre, plus ça
in,
devient grand.
Get bigger, that feels exactly true.
C'est exactement
really
ça qu'on a ici. Et c'est quelque chose que je voulais amener dans ce livre, cette idée, donc, qu'une communauté où quelque chose est en train de se passer,
kind of interfering with what's
quelque chose
going on
interfère avec ce qui
orders.
Se passe, avec l'ordre naturel des choses,
right
mais on ne regarde jamais directement ce qui est en train de se passer. C'est simplement
right
des choses que l'on voit de loin. On voit dans l'ombre qu'il se passe quelque chose. Quelque chose vous regarde.
Really
mais vraiment,
happening.
On ne voit jamais véritablement
so
ce qui est en train de se passer.
Extent,
et jusqu'à un certain point,
light,
il faut aller vers l'ombre de plus en plus. On a envie d'aller vers l'ombre pour voir ce qui se passe, pour découvrir que les choses deviennent de plus en plus bizarres, de plus en plus grandes et importantes en même temps.
Gilles Dumais, effectivement, il y a une sorte de tripartition, c'est une structure en trois temps, et non pas l'un après l'autre, mais l'un à l'intérieur de l'autre.
Il y a... une sorte de vertige cosmique qui apparaît au fur et à mesure qu'on lit le livre. Je peux donner une clé sans trop spoiler le livre. C'est, à mon sens, c'est un livre de science-fiction.
Voilà, c'est un livre de science-fiction, mais on sent qu'il y a des trois petits points. Pour la première fois, sa sérénité et son assurance s'effondrent. Il cligne des yeux, confus, et lève la tête vers ses geôliers. Qu'est-ce que c'est ? Demande-t-il d'une voix faible. Qu'est-ce que vous avez fait ? Zimmermann ne répond pas. Il se détourne et crie « Allez, maintenant !» Alors tous trois s'élancent en direction de la clôture, battant des bras pour garder leur équilibre lorsqu'ils dérapent sur la roche. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» lance l'homme derrière eux, mais il n'obtient aucune réponse. Lorsqu'ils atteignent la clôture, ils soulèvent le pan de grillage et cèdent les uns les autres à passer. « C'est tout ?» demande Norris. « C'est fini ?» Avant que Zimmermann ne puisse répondre, une lumière jaune flamboie subitement entre les arbres, à côté de la cascade. Les trois hommes se retournent et doivent plisser les yeux, bien que la source même de la lueur leur soit cachée. L'éclat frissonne étrangement, comme si des milliers de papillons de nuit dansaient dans ses rayons. Les raies qui filtrent depuis la clairière semblent dessiner une cage thoracique penchée. Un extrait d'American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, l'invité de Mauvais Genre sur France Culture ce soir. Donc un livre paru chez Albin Michel, Imaginaire. Il y a un chapitre dans votre livre, alors là aussi il va falloir faire attention, Gilles Dumais et Vassil Agnan, de ne pas trop en dire, que j'ai trouvé mais hallucinant. C'est le chapitre 36. Je ne vais pas demander à l'éditeur qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 36. Parce qu'effectivement, je le disais, il y a des pans du réel, il y a des dimensions de la réalité qui se... Il y a une sorte de tectonique, comme ça, un peu des plaques entre différentes réalités. Et il y a un moment où elles se frottent les unes aux autres et il y a l'équivalent, je dirais, presque physique d'un tremblement de terre. Et là, les choses ne sont plus accordées. Et il y a une sorte de discordance qui se passe même dans la réalité et des personnages qui semblent tout à fait communs, tout à fait anodins, monsieur machin, madame Intel, eh bien, en définitive, se mettent à fonctionner n'importe comment. Et je vais donner un exemple quand même, mais qui n'en dira pas très long. Une dame qui doit apporter, je sais pas, une carafe de jus d'orange à son mari reste debout à la porte pendant 7 heures. Son mari, ça fait 9 heures qu'il répare sa voiture. Je pense que c'est sûrement les moments les plus forts, c'est les moments où l'engrenage est grippé et où les choses commencent à se déréguler, Robert Jackson Bennett.
Yeah, that's actually my favorite chapter, I think, in the book, is the one that you
mentioned.
C'est mon
chapitre favori dans le livre, comme vous l'avez dit. C'est le moment pour lequel j'ai écrit tout ça. Et cette chose avec la voiture, c'est quelque chose dont je suis assez fière, je dois dire, où cette femme est là avec son pot de jus de fruits et puis et son mari répare la voiture. Et le mari est sur son dos. Et il boit 30 bières. Il n'en a jamais assez. Et il est couvert d'urine parce qu'il se fait pipi dessus, littéralement. Et puis, la raison pour ça, c'est très simple. Ils essayent d'être des gens. Ils essayent d'être les gens qu'on dit qu'ils sont. Ils savent que l'homme travaille dans un garage, qu'il boit de la bière, et qu'une femme attend pour son homme et essaye de le servir. Et l'un des moments préférés dans ce livre, enfin, de ce chapitre,
Voilà, suis-je vivant ou qui est-ce qui est vivant et suis-je heureux ou qui est-ce qui est heureux? Il va s'inadéant, effectivement. On ne finit pas plus savoir qui est heureux et qui est vivant dans ce roman.
Non, et c'est justement un des points que j'ai trouvé très intéressant et inattendu dans American Elsewhere, c'est toute la réflexion sur ce que veut dire être heureux et comment ça peut être perçu et réfléchi par justement des créatures différentes.
Oui, c'est une réflexion aussi sur l'image du bonheur plus que sur le bonheur. Enfin, un petit peu, si, c'est d'abord sur le bonheur. C'est surtout Mona qui est confrontée à la nécessité du bonheur, Gilles Dumais, mais c'est surtout aussi sur l'image du bonheur. Cette ville, elle incarne d'une certaine façon le bonheur tel qu'on l'a rêvé après la guerre, au moment de la guerre froide. Le bonheur, c'est ça. On a sa maison, son jardin, sa voiture, ses enfants, son frigo, son jus d'orange, sa bière. On est heureux.
J'ai cru déceler dans le sous-texte d'American Elsewhere une critique de l'American Way of Life. Une critique peut-être un peu béate de ce que ça devrait être, c'est-à-dire consommer et mener son chemin tranquillement jusqu'au bout. Ce qui est intéressant dans le roman, c'est que Mona, c'est un personnage brisé.
Mmh, ouais.
C'est un personnage extrêmement traumatisé. C'est un personnage qui pourrait s'enfoncer, qui pourrait se suicider, qui pourrait baisser les bras, qui pourrait... Il aurait pu se passer plein de trucs horribles, en plus de ce qui lui est déjà arrivé. Et c'est un personnage qui, au contraire, confronté à toutes les difficultés personnelles qu'elle a eues, puis confronté à d'autres difficultés dont on ne va pas parler, va toujours essayer de trouver un chemin, va toujours essayer de se dresser, va toujours... pour moi, c'est aussi un roman sur la résilience, sur la résistance, sur la volonté, et sur la foi en l'être humain, sur la foi en sa propre force. Peut-être que Robert ne sera pas d'accord, mais peut-être que le message du livre, c'est que le vrai American Way of Life, ce qui fait vraiment la force américaine, c'est la foi qu'on a en soi-même, plus que le bonheur d'acheter des choses et les mettre dans son frigo.
Très rapidement, Robert Jackson Bennett, c'est la foi plus que le bonheur qui compte pour les Américains.
Wow, that's I can't. I'm yes. I'll go ahead and say yes.
Oui,
sure.
Je dirais
yeah,
oui.
I think that that what I think that the book captures is the strength
ce que capture
of American,
ce livre des Américains, je crois, c'est cette façon de vivre américaine.
This idea of just trying
c'est
to keep going,
idée d'essayer de continuer à aller de l'avant et admettre ce qui est en train de se passer.
Accept what has happened to you
si vous acceptez ce qui se passe,
that a story is just a story
si
and you've got to be practical and you've
votre histoire, c'est une histoire que vous devez vivre,
really value, that
et
that's
vous réfléchir à ses valeurs.
Is at its best.
Et ça, c'est l'Amérique dans ce qu'elle a de mieux, je pense.
Than just
et c'est plus que l'Amérique ici, quand même. C'est une histoire sur soi-même que l'on a ici. On doit faire avec son passé et puis continuer. C'est ce que nos nations font, malgré tout. Et je crois que l'humanité est à son meilleur quand elle accepte ce qui lui arrive, quand elle est honnête, et quand elle change ses valeurs, quand elle prend des décisions basées sur cela.
Merci Robert Jackson Bennett. Je recommande évidemment très chaudement cet American Elsewhere, le démarrage en fanfare, à son de trompe, non pas de trompe, de trompe, de la collection Albin Michel. Imaginaire, on termine ce mauvais genre, bien sûr, avec Christophe Beer.
Je fus au Sacré-Cœur de Montmartre dimanche dernier. En revenant à la descente du grand escalier, un photographe ambulant prenait des vues. Je lui ai acheté des épreuves, je t'en adresse une, où tu me verras en assez bonne santé. Déchiffre-t-on au dos d'une carte postale de 1920. Elle représente l'escalier de la rue Muller. Où donc est l'expéditeur? Parmi ces gens au pied du lampadaire central, à moins qu'il ne soit dans le groupe derrière. Est-ce l'homme fumant le cigare et tenant la rambarde? Too Even réunit 160 clichés d'anonymes dans ce même lieu, photographiés pendant près de 30 ans, du début des années 20 jusqu'à 1950, selon un protocole immuable établi par François Gabriel, un professionnel installé au pied de la butte. On connaît plus aventureux comme photographes ambulants. Les arpenteurs de sites touristiques et de stations balnéaires chassent le touriste en goguette. Contrairement à ses confrères, François Gabriel, artiste portraitiste, délimite son terrain à seulement quelques mètres de son atelier et de son domicile, établit son cadre, format vertical embrassant toute la descente de l'escalier. Il ne court pas après les clients, ceux-là descendent à lui. Pour rentabiliser son travail, photographier un maximum de gens en un seul cliché et optimiser ainsi ses chances de vente, il équilibre des portraits de groupe, parfois jusqu'à 50 personnes. Pour l'image souvenir, ce qui compte alors est d'être sur la photo, même au loin. La performance de François Gabriel est d'orchestrer en extérieur, en évitant les positions figées, manquant de naturel et les personnes floues. Elles sont rares. Une femme revient souvent au premier plan, sa propre épouse, complice du dispositif, comme pour souffler au badaud l'idée d'être pris à son tour en photo. Outre les touristes, tout le petit monde montmartrois est saisi. Poulbeau, communiante, commis, nourrice, modiste et mauvais garçon. Cet aspect sociologique évident s'efface devant l'œuvre sérielle qui s'épaissit de mystère et de fantaisie. Les rares clichés à un personnage, frêle silhouette au pied du lampadaire, intrigue, comme les enfants stupéfaits surgissant des landaus. Sur une photo, toutes les personnes placées sur les marches de gauche mettent en relief un chien, seul être qui occupe la partie droite de l'escalier. Les chiens, étonnant sujet, tel ce berger allemand s'apprêtant à gravir les marches et prenant le soin coquet de se retourner pour fixer l'objectif. En proposant cet ensemble, les éditions Innocence de Jean-Marie Donat invitent à de multiples récits aux acteurs inconnus. Le livre est dédié à Sarah, 93 ans, et à ses parents qui furent déportés à Auschwitz et dont il ne lui reste que quelques cartes souvenirs de François Gabriel dans les escaliers Muller.
Merci Christophe Beer, merci Robert Jackson Bennett d'avoir été l'invité ce soir de Mauvais Genre. Vos propos étaient traduits par Olivier Lacoste. Merci Gilles Dumais, Elisa Sivagnon. Donc je rappelle bien évidemment American Elsewhere chez Albin Michel Imaginaire. Il y a certains palaces qui ont des chambres maudites. Là, le chapitre 36 est le chapitre fatal à découvrir. D'urgence, l'équipe technique de France Culture aujourd'hui, Olivia Branger, Laurent Fracchia, Sébastien Huel, Christophe Michou, l'émission est réalisée par Laurent Polleret, assistée de Séam Boutata, Claire-Martin Dugard. Vous avez pu entendre Christophe Beer, l'émission a été présentée par François Angelier, et je remercie très chaleureusement Estelle Lacot du Festival Utopial et Jeanne de Batz pour la part qu'ils ont pris dans cette réalisation. D'ici là, bonne nuit à tous. Les Utopiales, c'est encore demain à Nantes. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Nous serons avec l'historien Nicolas Beaupré. Il sera en effet l'occasion d'évoquer les écrivains et la Première Guerre mondiale. Bonsoir à tous et merci au public d'avoir été présent.
Manual restart required.